Bienvenue dans cette revue de presse du 28 mars 2023. Je vous donne les titres d'actualité. Il y a plusieurs mois, dans une revue de presse, je vous avais parlé des personnes introverties. Alors là, je vais particulièrement parler des enfants. Et oui, ce n'est pas parce qu'ils sont plus discrets, qu'ils sont plus à l'écoute que dans la discussion, qu'ils n'ont pas moins de valeur. Donc je vous parlerai d'abord des enfants introvertis à travers un article en ligne sur le blog de Famille Chrétienne. Je vous parlerai ensuite de Marie-Caroline Schur. Donc vous savez, une jeune femme qui est lourdement handicapée de naissance et qui a écrit au président Emmanuel Macron donc une lettre ouverte sur la valeur de la vie. Donc je vous parlerai un petit peu de Marie-Caroline Schur, puis après je vous lirai cette lettre ouverte en ligne sur le site de l'OCH. En portrait aujourd'hui, nous allons parler du grand écrivain britannique Chesterton. D'abord anglican puis devenu catholique, nous allons voir comment il a été un fervent apologiste du Christ, donc dans Prier Magazine numéro 450. Et en culture chrétienne, je vous proposerai un livre paru aux éditions du Jubilé, intitulé « Guide des difficultés de la vie quotidienne » du père Pierre Descouvemont, que vous entendez la première semaine de chaque mois pour les commentaires d'Évangile. Nous commençons cette revue de presse avec les enfants introvertis. Alors, ils préfèrent écouter plutôt que parler, lire plutôt que sortir avec des amis. Et bien pourtant, ces personnes discrètes, introverties, sont précieuses. Timide, réservé, introverti. Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner ces individus qui préfèrent rester en retrait. Dans un livre inédit, Suzanne Kine revient sur ces observateurs qui préfèrent l'ombre à la lumière et exhume de notre patrimoine intellectuel et culturel quelques-uns des plus célèbres discrets auxquels, à l'instar de Newton et Einstein, l'humanité doit beaucoup. La profondeur de la réflexion, le temps laissé à l'observation, la place faite à la prière nécessitent un repli sur soi qui n'a pas bonne presse aujourd'hui. Nous vivons dans un système de valeurs que j'appellerais l'idéal extraverti, c'est-à-dire la croyance selon laquelle l'être idéal est sociable, dominant et à l'aise. Quel lieu d'éducation et de vie professionnelle ne relaie pas cette croyance, contraignant chacun à forcer sa nature ? C'est oublier que, dans ce retrait, se forgent des capacités d'observation, de méditation, de connaissance de soi et des autres que l'action ne permet pas. L'école n'est pas étanche à cette tentation du bruit et de la précipitation. Élire le délégué de la classe, faire un exposé, organiser des débats participatifs, partout l'exercice oral a damé le pion à l'écrit. Et pourtant, les enseignants se plaignent que les enfants ne savent plus écrire, ni se taire, encore moins se concentrer. Ne faut-il pas plutôt redonner de l'espace au silence, à la réflexion, à l'observation, afin que l'enfant déploie un raisonnement, le confronte à son propre jugement avant de l'exprimer. Les élèves lèvent la main pour répondre sans même avoir réfléchi, disent souvent les maîtresses. Cette inclination est encouragée par une sorte de bonus participatif. À l'école, dans les activités extrascolaires, à la maison, partout l'on vise à l'extériorisation. Certes, on ne peut que se réjouir que nos enfants soient capables de partager leurs découvertes et transmettre leur savoir. Mais il est important de veiller à un juste équilibre qui reconnaît à chacun le droit au silence. Après 4 années de louftisme, la cheftaine nous a expliqué que notre fils ne pouvait pas être cisonnier car il était trop discret, nous dit une mère de famille appelée Marie. Elle nous a assuré que c'était un bon louveteau, coopératif, serviable, priant, mais qu'il n'avait pas suffisamment de leadership pour endosser ce rôle. Le scoutisme n'est-il qu'une école de jeunes leaders ? Baden-Powell et le père Sevin se seraient-ils satisfaits d'une vision si réductrice ? Les lieux d'éducation, à commencer par nos familles, ne doivent pas perdre de vue la finalité de toute vie. Or, il en est des catholiques comme des autres. Les sirènes de la réussite sifflent sur nos têtes et nous font souvent tordre le naturel de nos enfants. En parents chrétiens, méfions-nous de ne pas transformer nos écoles de sainteté en écuries de futurs dirigeants, sauf à y perdre de vue l'essentiel. L'amour prend patience, l'amour rend service, nous dit saint François d'Assise. À aucun moment il n'est question de capacité à subjuguer ou à mener. Nos enfants, s'ils doivent devenir des meneurs d'hommes, ne doivent mener qu'à Dieu. Ce n'est que dans un cœur à cœur profond que nous pouvons saisir le sens de nos existences. Et le silence en est le meilleur terreau. Le mouvement des veilleurs, par exemple, en préférant le calme de la nuit au bruit de la rue, la lecture de grands auteurs aux slogans tapageurs, n'en sont-ils pas les meilleurs témoins ? C'était l'article sur les enfants introvertis que vous pourrez retrouver en ligne sur le blog de Famille Chrétienne. Je vais vous parler maintenant de Marie-Caroline Schur. Donc la plupart, bien évidemment, ont dû déjà en entendre parler. Donc vous savez, cette jeune femme, lourdement handicapée de naissance, est très inquiète des débats sur l'euthanasie. Et donc elle en appelle au président Macron dans une lettre ouverte. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord un petit peu vous donner les grandes lignes d'actualité concernant Marie-Caroline Schur, et puis après, je vous lirai sa lettre ouverte au président Macron. Maniant son fauteuil électrique d'un doigt, la jeune femme reçoit, avec son nandit chien Sherlock, dans sa grande pièce de vie lumineuse. La voix est calme et posée. « Je suis Marie-Caroline, enfant bien-aimée de Dieu, pleinement vivante, aventurière, combative. » Il en a fallu du courage à cette entrepreneuse pour écrire une lettre ouverte à Emmanuel Macron afin de l'interpeller sur le respect de toute vie humaine. Votre dignité, monsieur le Président, est égale à la mienne. Atteinte d'une maladie génétique orpheline, Marie-Caroline sait le prix de la souffrance physique comme morale. Car tout est lié. Le poids du handicap, douloureux, énergivore. Sa maladie évolutive touche les articulations. Elle lui a valu 50 opérations et des nuits de ténèbres à l'hôpital. La foi n'empêche pas de souffrir. Elle a alors mesuré la valeur de la vie et s'est mise à l'école du réel au jour le jour. « Ce matin, nous dit-elle, je suis en forme. » Dépendante à 100%. Partie seule au printemps dernier sur le chemin de Compostelle, l'aventurière à roulettes a voulu faire confiance à la bonté du cœur humain, à sa capacité à se déployer dans des rencontres inoubliables. Comme cette femme espagnole à qui elle a demandé de l'aide le soir en arrivant à l'auberge et qui, bien qu'effrayée, a accepté de lui donner sa douche et de la coucher. Elles se sont recroisées 2 jours après. Quand elle m'a vue de loin, elle s'est précipitée vers moi pour m'embrasser, a versé des larmes, et c'est elle qui m'a remerciée. La lettre au président, remise entre-temps en main propre, va-t-elle changer le cours des événements ? Marie-Caroline nous dit « Je ne sais pas, mais je ne pouvais pas me taire. J'ai semé, même si ce n'était pas sans combat. Dans une culture de mort, il est toujours difficile d'œuvrer pour la vie. Le reste ne m'appartient pas. » Ces mots dénoncent l'hypocrisie d'une société qui, sous couvert de bien, est prête à supprimer les plus vulnérables. Profiter de la faiblesse de l'autre, c'est si facile. Notre monde n'aurait-il pas intérêt à les voir au-delà de leurs souffrances, comme des personnes qui ont quelque chose à donner jusqu'au bout de leur vie ? Elle nous dit encore « Tout est possible à celui qui croit ». C'est cette phrase qui était inscrite sur mon sac à dos sur les chemins de Compostelle. Dans ma vie, je n'ai jamais été freinée parce que j'étais en fauteuil, même si je ne peux pas tout faire. L'essentiel est de garder confiance en Dieu. Quand je vois tout ce que Dieu a permis que je vive jusqu'à aujourd'hui, on peut tout demander dans la prière et je suis beaucoup moins seule quand des amis prient pour et avec moi. Je vais maintenant vous lire cette fameuse lettre ouverte que Marie-Caroline a écrite au président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, je m'appelle Marie-Caroline. Jeune femme handicapée moteur, je vous écris ces lignes avec tout le respect que je vous dois, mais je ne peux plus me taire. Accepterez-vous de m'entendre ? Je ne peux plus me taire, car dans votre République, le respect de la personne humaine est en danger. Je suis née avec un handicap moteur très lourd et douloureux qui me contraint à une dépendance totale. Je me déplace en fauteuil électrique. J'ai été opérée et hospitalisée des dizaines de fois. J'ai besoin des autres à chaque instant pour survivre, dans les moments les plus humbles de la vie quotidienne. J'ai pourtant suivi une scolarité ordinaire et des études supérieures. Après avoir enseigné 10 ans l'anglais en établissement public, je suis maintenant auto-entrepreneuse. Je suis passionnée par l'aventure et les voyages. J'ai visité de nombreux pays et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Chaque jour, mon combat est celui de la dépendance, pas de la vie. Mon handicap ne m'a jamais empêchée de franchir les obstacles, ni de réaliser des rêves, bien au contraire. Il est un tremplin qui m'invite quotidiennement à choisir de vivre parce que j'aime la vie. Le handicap est une contrainte, la vie n'en est pas une. Nous nous étions rencontrés le 9 avril 2018 au Collège des Bernardins. Nous avions pu échanger quelques mots et je vous avais offert mon livre, témoignage, pour lequel vous aviez montré de l'intérêt. Pour me parler, vous vous étiez mis à ma hauteur. Cette attention que vous aviez eue, je ne l'ai pas oubliée. Aujourd'hui, je vous partage ma grande inquiétude et mon scandale face à l'euthanasie. L'euthanasie vise d'abord les personnes vulnérables dont je fais partie. Les personnes malades, en fin de vie, âgées, handicapées. En bref, les personnes qui dérangent et sont source de contraintes. Va-t-on volontairement me tuer pour mon propre confort ? Qu'est-ce que l'euthanasie, sinon supprimer en conscience la vie d'une personne humaine ? Il faudrait nous éliminer, sous prétexte de nous simplifier la vie ? Mais laquelle ? La mienne ? Celle de mon entourage ? De l'hôpital ? De la société ? Se débarrasser de ce qui dérange, c'est en apparence si simple. Que dit ma conscience ? Que dit votre conscience en vérité ? Non, monsieur le Président, l'euthanasie n'est pas une bonne mort. C'est un mensonge de croire que je peux maîtriser ma vie et ma mort. Vous l'aviez vous-même exprimé au pape François par ces mots. Ma mort m'appartient-elle ? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Non, monsieur le Président, votre mort ni la mienne ne nous appartient. Je suis actrice de ma vie, mais pas toute puissante. Décider du jour de ma mort n'est pas conforme à mon désir profond, qui est de vivre jusqu'au bout de ma vie. Non, monsieur le Président, l'euthanasie n'est pas un soulagement. Cette idée même me fait porter une lourde culpabilité. Je suis de trop. Je suis un poids pour les autres. Je sature les services hospitaliers. Je coûte cher. Peut-être vaudrait-il mieux me supprimer ? Ma vie devient une marchandise à prendre ou à laisser. Non, monsieur le Président, la proposition de loi actuelle affirmant soi-disant le libre choix pour la fin de vie n'est pas la vérité. La loi n'est que le reflet d'une mentalité qui anesthésie mon esprit. Pour le bien de la société, il faudrait alléger le poids de ma vie. Au nom de l'amour et d'un bien-être qui me serait soi-disant bénéfique, je pourrais tomber dans cette culture de mort. Une culture de la perfection, sans le moindre grain de sable, désagrément ou contrariété. Comme s'il était interdit d'être différent, fragile, pauvre, malade, âgé, handicapé. Non, monsieur le Président, l'euthanasie ne doit pas être rendue possible dès lors qu'un grain de sable enraye le système. La dépénaliser, c'est déjà la rendre automatique. Notre société deviendra alors stérile, robotisée, peuplée de gens faussement parfaits, car la perfection n'existe pas. Quel degré de dépendance me fera passer du côté de ceux qu'il faut tuer pour leur bien ? À quel moment y aura-t-il un carton rouge pour prévenir le danger et empêcher le médecin de me proposer l'euthanasie s'il considère que je ne suis plus digne de vivre ? Je vous le demande, monsieur le Président. Estimez-vous que ma vie est digne ? Suis-je un fardeau pour moi-même et pour la société ? Une erreur biologique ? Un poids qu'il faut bien porter puisque je suis en vie et qu'il n'y a pas le choix ? Votre dignité, monsieur le Président, est égale à la mienne. Personne n'est plus digne qu'un autre. Je ne suis pas moins digne de vivre que vous. Vous n'êtes pas plus digne de vivre que moi. Quand je souffre et que je veux mourir, je dis mon besoin d'être entouré. La douleur physique et la souffrance morale n'empêchent pas le bonheur. moi qui souffre en permanence dans mon corps. Il m'est évidemment arrivé de m'interroger de manière légitime sur la mort. Quand j'ai trop mal, il est normal de me scandaliser. Mais jamais je n'ai souhaité mourir. Oui, souffrir est terrible. Oui, la douleur, la solitude, la perte de sens me questionnent. Pourquoi tout ça ? C'est alors que ma souffrance, accompagnée silencieusement et humblement, me redonne dignité et vie. La mort ne vient pas tant supprimer la souffrance que supprimer la vie. Elle n'est pas la solution. Elle ne sera jamais la solution. La solution, c'est la relation. Monsieur le Président, je vous demande aujourd'hui de protéger la dignité de chacun en prenant clairement position contre l'euthanasie. Ayez le courage d'écouter ceux dont personne ne veut. Soyons puissance de vie. Soyons force de relation. Nous serons alors dignes de nous regarder chaque matin dans le miroir. C'était la lettre ouverte de Marie-Caroline Schur qu'elle a adressée au président Emmanuel Macron, une lettre que vous pourrez retrouver sur le site de l'OCH. Je vais maintenant vous parler du grand écrivain britannique que la plupart d'entre vous ont sans doute lu, Chesterton. Autant qu'un brillant polémiste et un drôle de paroissien, il fut un fervent apologiste du Christ. Donc c'est ce sur quoi nous allons nous intéresser maintenant à travers un article qui figure dans Prier Magazine numéro 450. Le 20 juillet 1922, un homme corpulent et de haute taille entre avec gravité dans la salle de danse d'un hôtel de la petite ville de Beaconsfield. C'est Chesterton, célèbre homme de plume anglais, qui a décidé de franchir le pas. Dans ce lieu, transformé pour l'occasion en chapelle, il reçoit le baptême catholique comme cela se fait à l'époque quand on change de confession. Seuls quelques amis, des prêtres principalement, sont dans la confidence. Son ami, l'impétueux Hilaire Belloc, est absent. Quand il apprendra la nouvelle, il mettra plusieurs jours avant d'y croire vraiment. Depuis 1905, toute l'Angleterre est pourtant persuadée que Chesterton est passé dans le camp papiste avec armes et bagages, honni par l'élite depuis la rupture de Henri VIII avec Rome. Les raisons d'une telle certitude ? Essentiellement deux essais de l'écrivain, Hérétique et Orthodoxie, qui défendent ce qui apparaît aux yeux du grand public comme une profession de foi catholique. Avec sa plume alerte, son usage immodéré des paradoxes, son goût de la provocation, son art de renverser les certitudes, Chesterton revient en fait de loin. Il a perdu la foi à l'adolescence, mais voulant croire malgré tout à l'existence d'un monde suprasensible, il a expérimenté la communication avec les esprits. Résultat ? S'il ne sait pas qui est Dieu, il connaît le diable. Son âme entame alors un long périple. Grâce à sa fiancée, anglo-catholique convaincue, il est revenu à la pratique religieuse dans cette branche de l'anglicanisme proche du catholicisme romain. La lutte contre l'impérialisme britannique lors de la guerre des Boers lui a aussi permis de rencontrer Hilaire Belloc, son aîné de 4 ans, un polémiste catholique plus que déterminé. Chesterton observe, regarde, réfléchit. Il constate que les idéologies, loin d'être novatrices, sont des erreurs vieilles comme le monde, déjà présentes dans les hérésies. Seul le socle commun du christianisme constitue à ses yeux la vraie réponse, car il épouse l'ensemble de la réalité humaine. Il critique de façon égale différents camps. L'affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs, écrit-il. L'affaire des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. Derrière ce combat pour le catholicisme se trouve une âme en quête de l'innocence à retrouver. À en croire le curé de sa paroisse, quand il communia pour la première fois, l'écrivain était en sueur tant il se sentait indigne de recevoir son Seigneur. Et quand on lui demandait pourquoi il était devenu catholique, il répondait simplement que c'était pour effacer ses péchés. Au soir de son existence, il aura ces lignes. L'idée maîtresse de ma vie, je ne dirai pas que c'est la doctrine que j'ai toujours enseignée, mais que c'est la doctrine que j'aurais toujours aimé enseigner. Cette idée, c'est d'accepter toutes choses avec gratitude et non de les tenir pour dues. C'était l'article sur Chesterton, fervent apologiste du Christ, article que vous pourrez retrouver dans le magazine Prier numéro 450. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter le livre du Père Pierre d'Escouvemont, paru aux éditions du Jubilé, intitulé « Guide des difficultés de la vie quotidienne ». Qui ne s'est senti, un jour ou l'autre, découragé, accablé par certains aspects de son passé, inquiet de son avenir, exaspéré par les autres, son travail ou sa vie tout entière? Qui n'a constaté son orgueil, son attachement à l'argent, ses difficultés à vaincre tel ou tel défaut? Qui n'a pensé « Dieu exagère, il ne m'exauce pas » L'auteur a été le confident de ses interrogations et de ses souffrances à travers sa riche expérience de prêtre. Pendant des décennies, aux personnes venues lui demander conseil, il a indiqué des remèdes spécifiques et concrets, les consignant parfois par écrit. En 12 chapitres, l'auteur nous accompagne à travers les méandres de notre nature et de notre psychologie blessée, et nous montre ainsi des issues à la fois humaines et spirituelles pour venir à bout de ces problèmes et accueillir la lumière qui libère. Guide des difficultés de la vie quotidienne du Père Pierre d'Escouvemont, paru aux éditions du Jubilé.
Chers auditeurs, c'était la revue de presse de Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.